Chaque dimanche, dès 8h30, l'amour vaincra sur Tendance Ouest.
Bienvenue dans cette capsule L'amour vaincra, je suis le frère Paul-Adrien Dardemar, je suis prêtre religieux catholique et aujourd'hui, nous allons commencer par un peu de catéchèse fondamentale, un mot que l'on emploie beaucoup à tort et à travers, le mot de péché. Donc reprenons à la base ce qu'est un péché, ensuite nous le distinguerons d'une maladresse et puis parce que c'est bien aussi de se faire plaisir, ensuite après le caté nous voyagerons un petit peu et je vous parlerai des anges et des chérubins. Nous commençons par parler du péché. Peut-être qu'en cette période de carême, qui est un temps de lutte et de combat spirituel, convient-il de rappeler ce qu'est un péché et d'éviter en tout cas au moins une erreur. Définition du péché. Le péché, c'est faire intentionnellement quelque chose qui va contre la volonté de Dieu. Et parce que la volonté de Dieu, ce que nous aimions notre prochain nous-mêmes et Dieu, on peut redire encore que le péché, c'est choisir de ne pas aimer. Ou bien choisir d'aimer insuffisamment, en tout cas choisir volontairement et consciemment de ne pas être à la hauteur de l'amour que les autres peuvent nous demander ou que Dieu peut nous demander. Le péché nous éloigne de Dieu et nous expose à sa colère. Parce que Dieu est amour, oui, il nous aime, oui, mais quand nous refusons d'aimer ou que nous faisons le mal, Dieu n'aime pas ce que nous faisons. On confond parfois le péché et les maladresses. Par exemple, quand on blesse quelqu'un sans le vouloir parce qu'on a un caractère qui nous échappe et qu'une pensée est partie trop vite de notre bouche par indélicatesse. Alors oui, évidemment, il faut faire attention, il faut être délicat et il faut lutter contre ces maladresses. Mais on ne combat pas ces maladresses comme on combat le péché. Le péché doit être haï, mais les maladresses de notre caractère demandent plutôt une certaine forme d'humour sur nous-mêmes. On a un caractère que nous n'avons pas choisi et il faut aussi apprendre à l'aimer, même avec ses limites. Apprendre à aimer ses imperfections, cela aussi relève de l'amour de soi. Le péché, lui, doit être haï. Le saviez-vous, les chérubins, tout le monde sait ce que c'est qu'un chérubin, c'est-à-dire un ange qui, dans la tradition occidentale, est représenté sous les formes d'un poupon aux joues bien roses avec des ailes. Sauf que dans la Bible et dans la religion antique, c'était tout autre chose. En fait, on les appelait pas les chérubins, on les appelait les kéroubim. Des figures mythologiques qui d'ailleurs ne viennent pas de la Bible, mais de la religion assyrienne. C'était des créatures célestes avec une apparence hybride, avec des traits à la fois humains et animaux. Dans certaines traditions, les kéroubim sont représentés avec des visages humains, symbole de sagesse, des ailes d'oiseaux, symbole de spiritualité, et des corps de lion ou de taureau, symbole de force. Ils sont des gardiens, des protecteurs, et ils veillent sur les portes sacrées, sur les temples, sur les sanctuaires. Ils protègent les hommes et surtout les divinités. Ils sont des symboles de puissance divine, de sagesse, de protection, et ils suscitent la crainte parmi ceux qui les voient. Voilà ce que c'était à l'origine un chérubin. Nous passons maintenant à notre lecture de l'évangile du jour. Nous sommes dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 3, ce que l'on appelle le serpent de bronze. J'y reviendrai dans quelques instants, mais peut-être pour bien comprendre l'évangile, faut-il signaler dès à présent que le serpent de bronze était un moyen à l'époque de Moïse quand, traversant le désert, son peuple fut mordu par des serpents. Et pour conjurer le mauvais sort et pour guérir les maladies, Dieu avait ordonné à Moïse de faire un serpent de bronze afin que quiconque le regarde soit guéri de la morsure du serpent. Bon, ça c'était pour vous expliquer le contexte et la référence que vous allez entendre dans l'évangile que je vais dire juste maintenant. Nous sommes dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Je vous ai expliqué avant de vous lire l'Évangile ce qu'était cet épisode du serpent de bronze dont il est question dans le livre des Nombres dans la Bible, afin que tout le monde puisse bien comprendre ce dont il était question. Bon, je le reprends, mais de manière différente. En reprenant cet épisode du serpent de bronze, implicitement, Jésus se compare à Moïse, c'est-à-dire non seulement le grand prophète, mais le prophète qui, dans la tradition juive, devait revenir à la fin des temps, celui qui doit venir. Ainsi donc, Jésus se présente implicitement ici comme une figure de la fin des temps, une figure messianique. Deuxième remarque, le serpent ici, dans notre tête, est associé généralement au mal. C'est le serpent de la Genèse, celui qui tente Adam et Ève. Eh bien, ici, le serpent est en fait un symbole positif, bénéfique, ce qui est peut-être la seule fois dans la Bible, mais ça mérite d'être dit. En fait, il est comparé ici à la sagesse. Regardez le serpent, c'est ici regarder vers la sagesse de Dieu qui peut guérir. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que le serpent peut être associé à la sagesse divine ? Eh bien, parce que dans le folklore juif, le serpent était le plus rusé, le plus intelligent des animaux, un peu de la manière dont, dans le folklore médiéval, Maître Goupil, c'est-à-dire le renard, sera le plus rusé des animaux. Ainsi donc, le serpent est symbole d'intelligence. Et en se comparant à un serpent, Jésus, en fait, dit qu'il est la sagesse divine. Et puis, enfin et surtout, vous avez ce verset qui est magnifique, que je le redis, on dit qu'il résume à lui seul l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ici, sa sagesse qui nous a aimés jusqu'à mourir sur une croix. Et bien voilà, c'est la fin de cette capsule « L'amour vaincra ». C'était le frère Paul Adrien. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans cette période du carême. Courage à vous pour ceux qui font des efforts. Le meilleur est à venir. Ça y est, nous avons passé la moitié du carême. Courage, courage, courage et bon dimanche à tous.
L'amour vaincra, votre rendez-vous du dimanche avec le frère Paul Adrien. Retrouvez tous ses contenus audio et vidéo en tapant frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok et sur le site internet et le réseau Discord en tapant l'amour vaincra.